My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus et militer avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you good time. This place has everything. Come on, I show you.
Alors bienvenue chères auditrices et chers auditeurs dans Les Enfants du Nouveau Monde du mois d'avril. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique de la forêt, des forêts cévenoles notamment. On entend beaucoup dire que nos forêts cévenoles sont en danger et j'avais envie de faire le point sur cette question avec trois invités qui sont parmi nous et que je salue. Juliette Bidard, qui est salariée du collectif Bois 07. Salut Juliette.
Oui, bonjour.
Anne Berthet, qui est salariée du réseau alternative forestière, le RAF.
Oui, bonjour.
Salut Anne. Et Laurent Carbonel, qui est à la coordination de SOS Forêt Cévennes. Salut Laurent.
Bonjour.
Voilà, bonjour. Alors, merci d'être parmi nous et de nous aider, d'aider les auditeurs et les auditrices à comprendre un petit peu mieux quels sont les enjeux pour les forêts cévenoles notamment. Ma première question, c'est quel est le bilan aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate? Quelles sont les pratiques qui mettent en danger nos forêts? Puisqu'on entend parler de forêts en danger. Vous avez constitué le collectif SOS Forêt Cévennes, donc c'est bien qu'il y a un SOS à hurler, à crier. Que se passe-t-il? Qui est-ce qui veut répondre à cette première question et faire un bilan un peu des questionnements?
Alors, je peux.
Laurent de SOS Forêt Cévennes.
Peut-être répondre, oui. C'est que, alors, pour prendre la problématique forestière locale, enfin, on va dire cévenole, sans refaire un historique trop lourd de ce qui s'est passé, aujourd'hui, on a une forêt plantée en plein maritime, ouais. Qui est une espèce qui a envahi toute la forêt de feuillus, on va dire, qui n'a pas été gérée depuis des années. Effectivement, on a une grosse problématique, risque incendie, perte de biodiversité par rapport à cette forêt. Jusqu'à maintenant, personne s'en souciait beaucoup, c'était comme ça.
Le pin maritime.
Sachant que c'était un bois, oui, qui n'avait a priori pas de grande valeur.
Mis à part pour les mines, à la base, c'est pour ça que c'était arrivé là.
Voilà, mis à part pour les mines, sauf que depuis la fermeture des mines, il n'a cessé de se développer sans déboucher, créant les problèmes qu'on connaît. Et sauf qu'aujourd'hui, dans la mode du développement durable, on voit apparaître des appétits autour de la forêt, sachant que le bois énergie aujourd'hui est une ressource inexploitée et que nous avons des volumes sur pied assez importants ici qui font que on a un certain nombre d'industriels qui s'intéressent à notre territoire et à notre forêt.
Alors concrètement, ce sont des centrales qui créent de l'énergie, c'est ça, à partir du bois.
Alors voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de grosses chaufferies qui s'occupent de réseaux de chaleur, qui ont besoin de bois, et nouvellement des centrales électriques. Alors, on va parler certainement aujourd'hui de celle de Gardanne, mais il n'y a pas que celle-là.
Celle de Gardanne, c'est la fameuse de E.ON,
voilà.
Ou E.ON.
Voilà, gérée par le groupe E.ON, groupe allemand E.ON, qui a des besoins assez importants. Mais c'est pas la seule, hein. Il y en a d'autres qui veulent en brûlant du bois de nos forêts et d'ailleurs produire de l'électricité. Et c'est là où ça nous pose un petit peu souci parce que c'est un non-sens écologique et économique, sachant que une centrale de ce type a 30% à peu près de rendement. C'est-à-dire qu'il y a 70% des bois qui seront brûlés qui ne serviront à rien. Donc voilà. Donc c'est on est pour le bois énergie, hein. C'est pas qu'une mode, ça correspond à un besoin, à une demande, disons. Mais mobiliser du bois, la manière de le mobiliser, la manière de l'utiliser, c'est à suivre de près. Et on manifestement ne fait pas ça pour s'occuper de nos forêts, mais pour d'autres appétits, quoi.
Alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas contre l'énergie bois, bien au contraire, mais du moment que le rendement soit efficace, que les arbres que l'on coupe servent vraiment à quelque chose et que l'énergie soit utilisée à son maximum. C'est
ouais,
ça
tout à fait,
la conclusion. Et comme vous avez constaté que donc la centrale de E.ON notamment et certainement d'autres ont un rendement uniquement de 30%, c'est très faible et ça vaut pas le coup de raser des pans entiers de forêt.
Exactement.
En gros, c'est ça.
Tout à fait.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres centrales qui, elles, ont un rendement meilleur? Comment on peut utiliser le bois d'une façon rentable, alors?
Ben déjà, on peut utiliser le bois pour se chauffer, pour faire un réseau de chaleur. Déjà, là, ça paraît plus logique. Faire de l'électricité en brûlant du bois, c'est un non-sens. Ça ne peut exister d'ailleurs que parce qu'il y a eu des financements importants européens, parce que E.ON a répondu à un appel à projet européen. Et est assuré d'un certain financement de plusieurs milliards, d'une part, et puis d'un rachat de l'électricité à un prix stable pendant un certain nombre d'années. Donc on voit bien que le système ne fonctionne que si c'est largement financé par de l'argent public. Sinon, ça ne tient pas au niveau économique.
C'est dingue, ça. Hein, c'est la première fois que j'entends cette constatation.
C'est la réalité. Alors on parle d'EOM, mais il y en a d'autres ailleurs. Mais voilà, tandis que... Je veux dire, on en parlera certainement tout à l'heure, des réseaux de chaleur locaux avec du bois énergie local et tout, ça a pleinement son sens. Voilà, on développera ça certainement tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Ça m'intéresse de savoir justement qu'est-ce que c'est un réseau local de chaleur. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question, Laurent Carbonel?
Je peux vous en parler parce que j'avais mis en place une filière bois énergie en Cévennes il y a quelques années.
Dans le coin en plus, proche de Bessèges, si j'ai bien compris. C'était vraiment nord du Gard.
C'était nord-Gard, sud de Lozère. Et le principe, c'était que d'une part, les collectivités, donc les communes pour beaucoup, pour l'essentiel, qui ont des besoins de chauffage pour les écoles, les bâtiments publics, les infrastructures sportives, etc. Donc on a besoin de chaleur, d'une part. De deux, on a ce massif à proximité avec un volume de bois sur pied assez important. Donc l'idée, elle est toute simple, hein. C'était de créer des plateformes de déchiquetage de bois localement, répartis sur le massif Cévenol, pour que des entreprises de forestières amènent du bois, le déchiquettent, et après qu'il soit consommé sur place. Donc les collectivités s'équiperaient de chaufferie bois.
Les fameux poêles à granulés, là?
C'est pas tout à fait du granulé, mais c'est du bois déchiqueté, okay, mais ouais. ça revient un petit peu au même. C'est une manière d'automatiser le chauffage au bois et de balayer un petit peu l'image à l'ancienne du bois bûche qui a sa place encore
pour certains.
Pour une utilisation particulière, mais au niveau industriel, pour des gros bâtiments, c'est un petit peu compliqué, quoi.
Anne Berthet du réseau alternatif forestière, vous vouliez dire comment ça s'appelle exactement, donc ce
réseau pour les alternatives forestières?
Oui, ce que je voulais dire, c'est comment ça s'appelle ce fonctionnement là en bois déchiqueté? Vous avez peut-être...
Alors juste, oui, voilà, les poêles à granulés et puis poêles bois bûche, ça c'est vraiment pour les particuliers, c'est ce qui est le plus adapté, avec également les chaudières à granulés qui se développent effectivement très bien. Alors ça demande un process industriel puisque le bois doit être transformé en petits granulés, mais il y a un automatisme qui fait que vous pourrez stocker votre bois granulé et puis le déclencher même si vous n'êtes pas là, garder une température de la maison. Donc c'est vrai que c'est un confort qui est bien intéressant. Le bois bûche, c'est intéressant parce que vous pouvez vous faire livrer à proximité par quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez avoir accès à une forêt, aller le chercher.
Donc ça crée des réseaux courts locaux.
Voilà, courts locaux. Vous maîtrisez vraiment votre votre process, vous savez exactement d'où vient le bois et comment il a été coupé.
Et puis, ça fait moins de pollution.
Voilà.
Ouais, c'est intéressant.
Voilà, exactement. Et après, voilà, le bois déchiqueté, effectivement, ça permet, c'est plus pour des collectivités qui disposent donc d'un aire de stockage plus important.
D'accord.
Pour pouvoir amener, stocker plusieurs mètres cubes de bois, ce que vous pouvez pas faire vous en tant que particulier, et puis l'apporter dans des réseaux de chaleur plus importants.
Voilà. D'accord. Donc, ce qui pourrait permettre, on imagine, de chauffer plusieurs bâtiments d'une commune, la mairie, la salle de sport, l'école, la poste, voilà, va savoir.
Plusieurs centaines de mètres carrés, effectivement.
D'accord. Ouais. Avec une seule chaudière.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et ça, ça se développe de plus en plus?
Oui. Là, il y a eu un gros programme soutenu par l'État. Enfin, la majeure partie des financements de l'État vont actuellement pour le développement de la filière bois-énergie. Ce qui est intéressant dans le programme d'avoir des énergies qui soient vraiment renouvelables, à part quand effectivement on a un projet comme E.ON où il y a 300 000 mètres cubes qui vont partir en fumée, donc ça c'est pas vraiment de l'énergie renouvelable, c'est l'énergie qui est gaspillée, enfin du bois qui est gaspillé, qui ne produit pas de, enfin voilà, il y a un déficit de rendement. Ce qu'il faut voir dans la filière, c'est aussi tout ce qui est débouché en bois d'industrie et bois d'œuvre, parce que c'est ce qui fait vraiment vivre la forêt et la forêt française, les propriétaires, les gestionnaires et tous ceux qui sont à côté de nous, là, à Bessèges, scieurs, charpentiers, menuisiers, quoi. La valeur ajoutée de la gestion forestière, elle est vraiment dans les bouchers bois d'œuvre et bois d'industrie. Bois d'industrie, c'est les planches, les chevrons, etc.
Voilà. Et le bois d'œuvre, là, ça va être des essences plus nobles qui pourraient servir à des charpentes, des choses comme ça.
Voilà, c'est ça. Donc glace, chêne.
D'accord. Alors, aujourd'hui, on constate que dans les Cévennes, on a une grosse forêt de pins maritimes, donc c'est ce que vous disiez. Une espèce qui n'est pas noble en soi, qui est difficile, enfin, on ne trouve pas beaucoup de débouchés pour cette espèce, à part donc le chauffage, si j'ai bien compris, c'est ça?
Alors justement,
c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pins maritimes alors?
Le pin maritime, justement, il souffre d'une image très négative parce que c'est l'envahisseur. Donc culturellement, Cévennes, c'est celui qui a concurrencé le châtaignier auquel tous ces venoles qui se respectent et attachés, et qui a appauvri les sols effectivement, et qui est envahissant. Donc du coup, on n'a jamais utilisé cette essence. Sauf que depuis quelques années, on commence à s'y intéresser. On se rend compte que c'est une essence qui peut servir en charpente, en bardage. Elle peut avoir d'autres utilisations. On voit dans les Landes, c'est le même que le pin maritime des Landes. Ça fait quand même des années qu'ils font des choses avec. Donc le fameux parquet en pin des Landes qu'on trouve partout. À Bricot Machin, partout en France, c'est le pin maritime, le même que chez nous. Ils construisent des maisons depuis très longtemps. Voilà. Donc, il y a des applications pour ce pin maritime là-bas, parce que là-bas, il a été planté pour ça, j'ai envie de dire. Ici, comme c'est l'envahisseur, on l'a plutôt dévalorisé. Et c'est aujourd'hui qu'on commence, effectivement, à se rendre compte de ses capacités.
Du coup, c'était plutôt culturel que finalement on ne fasse rien de ce pin maritime. C'était plutôt la culture qui n'était pas prête pour ça, contrairement par exemple dans les Landes où on s'en sert très bien et on l'utilise pour plein de choses. Donc finalement, il faut peut-être lancer la machine et se rendre compte que, ah bah oui, on peut l'utiliser ce pin maritime pour plein de choses. Et...
Alors c'était culturel, et c'était tellement culturel qu'on n'a pas géré, parce qu'on parle de l'utilisation du bois, mais avant d'utiliser du bois, il faut avoir une gestion sylvicole en amont, sachant que les mines avaient une gestion un peu particulière. Elles plantaient du pin maritime, mais elles prélevaient tous les bois qu'on appelle les bois droits pour faire des étais de mine, et elles laissaient les bois tordus. Ce qu'il faut savoir, c'est que un pin maritime tordu va donner des pins maritimes tordus, génétiquement.
Ah ouais.
Voilà. Et que du coup, c'est installé du coup des générations et des générations de pins maritimes tordus. Et on voit l'état de la forêt aujourd'hui en Cévennes, où il y a qu'une petite partie de sujets qu'on peut réellement exploiter parce qu'il y a une bande de longueur bien droite. Donc tout ça pour dire qu'il faut revenir en amont, repenser la gestion sylvicole de cette espèce parallèlement à y trouver des débouchés.
la Chine, produire à Colombo, programmer les machines, amortir les robots, liquider l'air liquide, contrôler Santa Fe, faire chuter l'arachide et les cours du café. Faut des têtes de gondole, faut des piles de carton, importer du pétrole, courir le marathon, anticiper la crise, cravacher, cravacher, gagner pour l'entreprise et le pain brioché. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, secouez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché, c'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Flip, 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 such brick, freak, skip, flip, 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 flip. Il faut doubler Dallas, dépasser Chicago, occuper tout l'espace, contourner l'embargo, court-circuiter Madrid, investir dans l'acier, faire monter l'arachide et la pâte à papier. Faut des boîtes de sardines, faut des frites en sachet, activer les turbines, compresser les déchets, éliminer l'angoisse, dégraisser, dégraisser, exporter des carcasses et du lait condensé. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, secouez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché, c'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Flip, 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 flip. Faut vendre à la Chine, produire à Colombo, programmer les machines, amortir les robots. Faut des têtes de gondole, faut des piles de carton, attendrir les vaches folles et cloner les moutons. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, dopez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché, c'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Flip,
vous êtes sur le 99.2 et c'est les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16. Aujourd'hui, on parle des forêts cévenoles avec notamment Laurent Carbonel de SOS Forêts Cévennes. Nous avons également parmi nous Juliette Bidard du collectif Bois 07 et enfin Anne Berthet du réseau Alternative Forestière, le RAF. Bon, en gros, on est au point zéro. On est au point zéro ou au point un ou deux sur l'échelle de on commence à se préoccuper de nos forêts et essayer de voir ce qu'on peut faire avec. C'est un peu ça.
C'est-à-dire qu'il y a deux chantiers à mener en parallèle. Il y a effectivement à montrer, à prouver que le PM maritime a un intérêt. Mais parallèlement à ça, il faut penser à l'avenir et regérer ces forêts, remettre en culture les forêts de PM maritime. Je vous rassure, on n'a pas à planter des nouvelles forêts de pins maritimes. Elles y sont, il suffit de faire le travail de sélection et de gestion sur ce qui existe.
Alors, avant de donner la parole à Juliette Bidard pour Collectif Bois 07 et de voir justement quelles sont les possibilités de gestion de la forêt à l'heure actuelle dans l'état où elle est, j'aimerais ponctuer cette émission de quelques extraits d'un livre de Mathias Bonneau. Ça s'appelle « L'hiver au bois, carnet d'un bûcheron ». C'est un livre qui m'a beaucoup plu, avec des belles illustrations. C'est un carnet de voyage d'un jeune homme qui, après ses études d'architecture, décide d'aller passer l'hiver au bois, comme l'indique le titre. Et il part donc sur la forêt de son père, passer 3 mois à faire du bûcheronnage. Et donc, c'est une forêt que le papa avait achetée suite à quelques années après que, sans doute, cette parcelle ait subi une coupe rase. Donc, les coupes rases, c'est ce qui se fait beaucoup chez nous. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs hectares et on coupe tout et on utilise tout, mais c'est très dommageable pour le sol puisque ça crée de l'érosion. Et puis pas que, parce que comme l'explique très bien Mathias dans son livre, une fois que tout a été coupé, en fait, ce qui repousse, c'est du taillis. C'est des rejets qui vont repartir depuis les souches, en fait.
Du feuillu, oui.
Voilà, merci pour les précisions, Anne. Et du coup, ça va créer un gros bazar, une forêt impénétrable, donc à peu près tous de la même génération. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément des grands arbres, des moyens, des petits, mais une espèce de jungle de petits rejets dans tous les sens qui vont se développer de façon anarchique et qui sera très difficilement gérable. Donc, Mathias Bonneau, qui a écrit ce livre avec son papa, se sont attelés à justement sélectionner, faire ce travail de gestion sylvicole, gestion de la forêt, et de sélectionner les espèces, les arbres qu'ils vont laisser pousser, ceux qu'ils vont éliminer pour faire de la lumière, pour favoriser les autres, la pousse des autres, etc. C'est très bien expliqué dans son petit livre. Alors, je vous lirai quelques extraits un peu plus tard. D'abord, voyons, qu'est-ce que vous faites au collectif Bois 07, Juliette Vidard?
Donc, on est une association qui a été créée donc en juin 2012, à l'initiative de professionnels de la forêt, d'artisans du bois et puis d'acteurs du développement local. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, on a une ressource en Ardèche, c'est un territoire très boisé.
Vous êtes basé au Vence.
On est basé au Vence, oui, voilà, on est en Ardèche, dans le sud de l'Ardèche. Voilà, et le constat était qu'il y a du bois qui est exploité, mais qui sort du territoire pour être transformé à l'extérieur du territoire. Donc toute la valeur ajoutée se fait à l'extérieur du territoire. Et puis à l'inverse, les artisans du bois sont obligés d'importer du bois de l'extérieur pour subvenir à leurs besoins. Et donc l'idée, c'était de se dire, OK, ben, et en parallèle de ça aussi, il y avait des professionnels de la forêt qui, eux, ont des activités, des petites activités artisanales assez fragiles. Et voilà,
quoi,
ils sentaient que donc des bûcherons, élagueurs, des bardeurs, voilà, et ils sentaient que si, voilà, pour pouvoir maintenir leur activité, le besoin de se constituer en réseau était essentiel.
D'accord.
Voilà, donc de là est né le collectif. Donc l'idée, c'est de créer une micro-filière de bois local issue de la gestion douce, puisqu'il y a aussi vraiment cette dimension écologique de se dire, OK, il y a de la ressource, on a des forêts, mais les forêts, c'est pas que pour prélever du bois, c'est aussi des espaces
de faune, de flore,
voilà, exactement, de faune, de flore, de randonnée, de voilà, c'est ce qui dessine aussi nos paysages. Voilà, donc vraiment avec cette idée aussi de se dire, OK, on peut aller prélever du bois dans la forêt, mais en échange d'une gestion douce et véritablement durable, voilà. Donc nous, au niveau du collectif, on achète du bois sur pied qu'on fait exploiter via des prestataires de services qui sont donc adhérents de l'association et qui portent les valeurs de l'association. Donc on s'appuie sur la charte du RAF, du Réseau pour les Alternatives Forestières. Peut-être que Anne pourra en parler un peu plus en détail ensuite. Et voilà. Et ensuite, on vend donc un bois brut de sillage, donc qu'on garantit issu d'une gestion douce locale. Et social, puisqu'il y a aussi l'intention de pouvoir valoriser les métiers de la forêt. Voilà, donc ça se concrétise par une rémunération supérieure de l'intervention des bûcherons et des bardeurs par rapport à ce qui se pratique de manière générale.
Alors voilà, ça, c'est très, très, très important, il me semble. Parce que bah, justement, moi, j'y connais un peu rien à toute cette thématique, et c'est vrai que c'est le livre de Mathias Bonneau là qui m'a un petit peu permis d'entrer dans ce monde de la forêt et du bûcheronnage. Et à la fin, il constate, il fait le bilan donc de ces 3 mois passés en forêt, et donc il fait le bilan poétique. Pour un arbre abattu, en moyenne, 3 autres arbres profiteront pour grossir à la lumière, donc profiteront de son absence. Donc, ils constatent, comme ils ont tombé 180 arbres fois 3, eh bien, ça fait 600 arbres. On a distribué de la lumière à 600 arbres, donc il est heureux de ça. Il fait le bilan économique. Je suis payé au mètre cube. Une perche équivaut environ à 0,7 mètre cube. Donc, il fait le calcul. Et en gros, tous ses 3 mois de boulot, ça lui est revenu à 630 euros. Il a bossé pendant 3 mois, 7 heures par jour, comme un fou. Le bûcheronnage, c'est pas du tricot, hein. Donc, il est épuisé en fin de journée. Il dit qu'il a même plus l'énergie pour faire quoi que ce soit. Donc, ramené en heures de boulot, ça ferait que 63 heures de boulot s'il était payé à 9,5 euros de l'heure, ce qui est le prix du SMIC. Et donc, il conclut, j'ai pas fait ça pour l'argent, hein. Ouais. Heureusement qu'il en a tiré un beau carnet de voyage et puis beaucoup de choses qui sont trop profondes à décrire. Il vaut mieux lire le livre pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il en a tiré. Je vous lirai quelques extraits qui vous permettront de comprendre aussi la beauté de ce travail de bûcheronnage, les contradictions et puis, puis la puissance de ce travail-là. Quand c'est fait dans une vision d'une gestion douce de la forêt, comme tu disais. Donc du coup, oui, c'est très important de payer correctement ces gens qui font un boulot très, très difficile. Et aujourd'hui, c'est bien ça le problème. C'est qu'en fait, c'est tellement mal payé que personne ne veut le faire. Donc soit on a accès, soit on a la présence de grosses entreprises qui vont travailler en coupe rase avec des grosses machines, des abatteuses et tout ça, et qui ne respectent pas du tout la forêt. Soit on va avoir des gens qui aimeraient peut-être travailler en sylviculture douce, faire du bûcheronnage intelligent, sélectionner les espèces, dire bah tiens, celui-là, il mériterait peut-être d'être coupé pour favoriser tel et tel autre, etc. Avoir une vision vraiment intelligente et douce de la gestion forestière. Mais pour ce boulot-là, encore faudrait-il payer les gens. S'ils ne sont pas payés, comment on fait? Donc, du coup, voilà, on est face à ce gros dilemme en ce moment, j'ai l'impression.
Ouais, et puis du coup, ça nécessite aussi de pouvoir trouver des débouchés aussi, j'ai envie de dire nobles, enfin, voilà, de pouvoir valoriser au mieux les bois. Donc, ça demande aussi effectivement, d'avoir cette approche vraiment globale en forêt, de sélectionner quels sont les arbres qu'on coupe ou pas. Donc, on est vraiment sur de la sylviculture irrégulière, hein, donc c'est des forêts qui sont mélangées en âge, enfin au moins en âge et si possible en essence aussi.
C'est ça qui donne les belles forêts, c'est ça qui donne les belles biodiversités, qui permet qu'il y ait une faune variée qui vienne se vivre là, etc.
Voilà. Et du coup, voilà, donc ça demande vraiment d'avoir cette approche-là et ensuite de vraiment pouvoir trier aussi, enfin la différence d'une grosse machine qui va rentrer sur une parcelle, par exemple de pins maritimes, tout va partir en bois énergie. On va pas se dire ah bah là il y a peut-être quelques arbres qu'on pourrait mettre de côté qui pourraient partir en bois d'œuvre etc et qui du coup apportent de la valeur ajoutée et qui du coup voilà donc là nous vraiment l'idée c'est de pouvoir valoriser un maximum ces bois donc on est beaucoup sur du bois d'œuvre voilà et notre souhait ça serait de pouvoir réintroduire du pin maritime dans les scieries voilà pour en extraire du bois d'œuvre du bois d'ossature donc de charpente, même en bois brut, une ossature bois peut tout à fait être faite en pin maritime. Il y a pas de souci en termes mécaniques, enfin résistance de cette essence-là. Il y a aucune contre-indication à ça. D'accord. Après, c'est à réintroduire dans. Déjà, il faut transmettre l'information parce que la connaissance n'y est pas. Enfin, les charpentiers, ils ont appris à construire en Douglas et ils n'ont pas l'information qu'ils peuvent construire éventuellement en pin maritime. Et après, c'est aussi une essence qui se travaille différemment. C'est un bois qui est plus lourd aussi que le Douglas. Bon, ça a d'autres. Mais voilà, tout ça, donc il y a aussi tout un travail d'information, de sensibilisation aussi à faire là-dessus. Donc ça, c'est aussi un des volets du collectif où on travaille aussi à transmettre une information et des connaissances autour de ça. Et après, du coup, je voulais revenir sur justement toute cette question d'information et de sensibilisation. Pour moi, elle est vraiment à faire en amont aussi, pas que au niveau de ce qu'on peut faire avec certaines essences. Mais enfin, nous, on s'aperçoit qu'au niveau du grand public, il y a vraiment une méconnaissance de la forêt, de comment ça fonctionne, etc. Et que beaucoup ont absolument pas notion quand ils vont acheter du bois dans un magasin de matériaux de d'où provient le bois. Comment il a été exploité, comment ont été rémunérés les différents intervenants, dans quel état est la forêt, où il était planté avant. Et tout ça, c'est très obscur.
Tout à fait.
Et du coup, il y a aussi tout ce travail aussi d'information à faire. Enfin, nous, au niveau du collectif, par exemple, on propose un bois brut de sillage qui est plus cher que ce qu'on trouve même dans les scieries locales à côté, justement parce que les coûts d'exploitation sont plus élevés. Et du coup, ça demande vraiment aussi de pouvoir informer. Oui, on est plus cher, mais pourquoi on est plus cher ? Parce que juste parce qu'on propose quelque chose de juste et d'équitable, et que à côté, il va être moins cher parce qu'il y a des maillons qui de la filière qui auront été
lésés.
Voilà, la répartition de la valeur ajoutée, elle est pas juste sur la filière, ou parce que voilà, ça aura été issu de grosses coupes rases ou de forêts saccagées. Voilà, donc il y a vraiment tout ce travail aussi là à faire, et de dire bah oui, peut-être que ça coûte plus cher, mais c'est le prix, c'est ça que ça coûte, et c'est voilà.
On peut vraiment faire l'analogie avec les produits alimentaires,
complètement.
Entre le discount qui n'est effectivement pas cher, mais sans saveur, plein d'intrants chimiques, etc., et puis qui saccage la planète et qui rémunère mal les gens qui y travaillent, et puis les produits bio, équitables, qui essayent de respecter au mieux la planète, les humains qui travaillent pour ça. Ouais. On peut vraiment faire le lien. Donc c'est vrai que c'est important de repréciser aux gens que le bois aussi, ça fait partie de ces ressources qu'il est important de choisir dans des circuits courts, locaux, équitables, etc., pour être sûr que nos forêts sont respectées, et puis les gens qui travaillent aussi. Parce que les gens qui travaillent dans les forêts, s'ils sont respectés, ils feront du bon boulot.
Et
ils respecteront aussi la forêt. Oui. Mais si eux-mêmes ne sont pas respectés, évidemment, voilà. S'ils sont mal payés, tout ça, ils ont pas forcément envie de faire les efforts, c'est normal. Alors, donnons la parole à Anne Berthet, donc du réseau Alternatives Forestières. Alors, Anne, vous êtes à Aubenas. C'est le siège du réseau, un des sièges ?
Oui, c'est le siège du réseau. Oui. Depuis maintenant, début septembre, on est basé sur Aubenas. On était en Aveyron auparavant. Donc effectivement, je suis très heureuse que vous ayez pointé du doigt la faible rémunération des travailleurs de la forêt, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au cœur des actions de notre réseau. Essayer d'avoir une rémunération beaucoup plus équitable au sein de tous les maillons de la filière. Et on sent actuellement vraiment une grande désespérance des gens qui interviennent dans la forêt, que ce soit bûcherons, débardeurs à cheval, personnes qui essaient vraiment de faire une gestion douce de la forêt, en facilitant donc la régénération naturelle, des peuplements irréguliers donc qui favorisent le fait d'avoir une forêt en continu et pas des passages par des coupes rases. Et ces personnes qui ont vraiment des savoir-faire très techniques et qui utilisent peu d'énergie fossile, ont du mal à se tirer un SMIC à la fin du mois.
Ouais, c'est terrible. Alors, juste, je précise, donc, la gestion de la forêt en continu, pour ceux qui n'ont pas bien compris la différence, c'est, justement, ces bûcherons qui vont venir sur une parcelle et qui vont proposer, donc, aux propriétaires de cette parcelle, parce que c'est souvent ça la question, c'est quand on est propriétaire d'une forêt, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cette forêt peut nous rapporter un peu de sous? Et qu'est-ce qu'on décide de faire? À qui on va confier cette mission. Donc soit il y a les bûcherons, comment on pourrait les décrire, Anne, qui sont dans des petites structures ou qui sont même qui
Alors
travaillent.
En fait, voilà, quand vous êtes propriétaire forestier, vous pouvez avoir affaire directement à l'acheteur de bois qui est intéressé, qui vous démarche en disant je suis intéressé par votre bois. Souvent pour du bois énergie, il va vous en proposer pas grand chose. Ça peut être aussi quand même un scieur s'il voit que vous avez des beaux bois. Donc, il peut vous en proposer plusieurs milliers d'euros. Ça dépend quelle surface vous avez et quels sont les accès à votre forêt. Vous pouvez aussi avoir l'exploitant forestier qui a un contrat d'approvisionnement. Il doit approvisionner une scierie et du coup, s'intéresse également à votre parcelle, à vos bois. Et derrière, il y aura l'entrepreneur de travaux forestiers. Lui, il peut pas vous acheter les bois, mais c'est lui qui va couper les bois. Le bûcheron, il a ce statut d'entrepreneur de travaux forestiers. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les entrepreneurs de travaux, eux, n'ont pas l'accès aux fonciers forestiers. Et ça, du coup, ils se retrouvent être main d'œuvre, ils se retrouvent vraiment à être dépendants des exploitants pour exercer leur travail. Donc,
c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux, ils peuvent pas démarcher des propriétaires?
Non.
En tant qu'exploitant forestier, on peut... Non, entrepreneur de travaux forestiers. Putain, c'est compliqué, tout ce jargon. Ouais. En gros, bûcheron, voilà, soyons clairs. L'entrepreneur de travaux forestiers, en gros, c'est un bûcheron.
Oui, tout à fait.
Oui, hein, ouais. D'accord. Donc, le bûcheron, lui, qui c'est son boulot hein, de couper des arbres. Et puis, ce serait même génial de le faire d'une façon douce. C'est ce qu'il fait. Hein. Il est là tout seul avec sa tronçon. Il fait beaucoup moins de ravages que ces entreprises qui font de la coupe rase avec des abatteuses et des énormes machines. Donc, lui, il est juste avec sa tronçonneuse. et il essaye de faire ça bien, mais il ne peut pas avoir accès aux propriétaires terriens. Il peut accès au nom.
Alors, il peut, mais dans le fonctionnement actuel, il passe toujours par un exploitant forestier. Donc, effectivement, nous, l'idée au niveau du réseau pour les alternatives forestières, c'est diminuer le nombre de maillons et de former, d'avoir une formation plus importante des bûcherons qui soient en capacité de sélectionner les arbres de qualité, d'avoir un regard de gestionnaire, même si, voilà, le gestionnaire forestier, il a une vision d'ensemble, il peut faire une cartographie, il a un GPS, etc. Le bûcheron, lui, doit pouvoir, dans ce qu'on souhaite développer afin d'améliorer sa rémunération, c'est que le bûcheron soit capable de sélectionner les arbres et de couper ce qu'il souhaite, soit pour un débouché direct en bois à énergie, soit pour éclaircir un peu la parcelle, donner plus de lumière à des arbres qui auraient un avenir en bois d'œuvre. Et du coup, au niveau du réseau, on a mis en place une formation en lien avec le centre de formation agricole de Digne-Carmejane, donc c'est dans les Alpes de Haute-Provence, une formation d'un an, brevet professionnel, pour justement apprendre ses bases et de bûcheronnage et de sylviculture. Sylviculture, donc, on n'en a pas parlé, mais c'est la sylviculture qui a été en irrégulier, qui a été développée par l'association ProSylva. Donc, si vous avez besoin de références, savoir ce que c'est que la sylviculture en continu proche de la nature, c'est vraiment vers l'association ProSylva qu'il faut se tourner. Et voilà, il y a tout un réseau de gestionnaires. Donc, pour les propriétaires qui ont des surfaces assez importantes, moi, je leur dirais de se tourner vers eux pour avoir davantage d'informations sur ce mode de sylviculture. Pour les petits propriétaires, essayer de voir effectivement directement avec des bûcherons s'ils peuvent venir sur vos parcelles et voir ce qu'ils peuvent couper pour vous approvisionner en bois de chauffage, vous, vos voisins, vos amis, et comme ça avoir un relais direct, quoi.
Mmh. Donc, en gros, pour résumer ce que j'ai compris, c'est que à l'heure actuelle, dans la filière bois, tout comme dans les autres filières d'ailleurs, on est dans quelque chose de très hiérarchisé, avec des freins, en fait. On peut pas faire ce qu'on veut, les statuts bloquent un peu, etc. Et en gros, il y a une énorme division entre ceux qui pensent la forêt, qui l'organisent, qui la visualisent, qui prennent les décisions, et les exécutants qui ne sont là que pour exécuter les ordres de ceux qui ont pensé, en gros.
Vous avez tout compris.
C'est ça, voilà. Et ça, c'est un énorme problème. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots, quoi. Celui qui coupe l'arbre, il a aussi envie de penser pourquoi il le coupe, et il est capable, il est même d'ailleurs le mieux à même, peut-être, des fois, de savoir pourquoi il coupe celui-là et pas celui d'à côté, quoi.
Voilà, après, ça dépend aussi de son bagage et aussi sa situation de précarité ou non. C'est-à-dire qu'un bûcheron qui doit à la fin payer ses factures, mais rien que de mettre de l'huile dans sa tronçonneuse, si on lui propose une coupe rase et qu'il a rien d'autre, il fera la coupe rase.
Évidemment.
Voilà, c'est, et au détriment ça de ses fait valeurs, quand même très... et au détriment de la forêt, de l'écosystème.
Ça fait quand même très mal au cœur de constater qu'aujourd'hui, il y a des gros financements d'État qui sont donc débloqués pour aller dans la filière bois énergie et que les exécutants, comme vous les appelez, les entrepreneurs des travaux forestiers, les bûcherons en gros, n'arrivent pas à dégoter un SMIC à la fin du mois.
On se cale beaucoup sur les tarifs de la machine, c'est-à-dire qu'on on parle d'abatteuse, faut faire venir une abatteuse, et ça c'est formidable, ça vous coupe votre bois, ça les branches, ça le met bord de route et tout, c'est formidable. Mais pour des terrains comme ici, qui sont en pente, qui sont peu accessibles, si vous voulez les valoriser, il va falloir faire venir de l'humain, voir des animaux avec les chevaux. C'est un travail formidable, un savoir-faire qui demande beaucoup de techniques, beaucoup de notions de physique avec des câbles, donc une rémunération qui est justifiée. Et quelqu'un qui s'installe en débardage à cheval, il n'a pas de subvention. On ne paye pas pour acquérir un cheval. Alors que la personne qui va acquérir une abatteuse, elle pourra avoir accès à des subventions, des prêts et autres. Et là, il faudra faire des dessertes pour qu'elle puisse venir avec son abatteuse. Donc en fait, les dépenses sont collectivisées. Alors qu'après, elle sera rémunérée.
Tout est fait pour inciter les gens à aller dans de la gestion brutale, technologisée, mécanisée.
Oui, aussi parce qu'on est, de manière générale, il y a juste une vision économique à court terme, en fait. Mm-hmm. En général, sur l'approche de la forêt, ce qui se passe, c'est ça. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va rapporter le plus maintenant.
Tout de suite.
Après, les conséquences que ça a sur le sol, sur tout ça, du coup, qu'est-ce qui va se passer après?
Sur la faune, la flore, la qualité de vie des gens autour,
pas.
On s'en fiche.
Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on va facilement vers de la batteuse, de la coupe rase, puis du bois énergie, parce qu'au moins, hop, on sait que là-bas, tout peut aller en bois énergie. Donc...
C'est-à-dire que dans les discours officiels, on parle de la multifonctionnalité de la forêt. Puis après, quand vous êtes sur le terrain, c'est vraiment le facteur économique, quoi. Mmh. Ah bah oui, mais bon, les chevaux, c'est bien joli, là, mais si vous voulez vraiment, là, le mètre cube, il faut qu'il sorte à tel prix, donc bah, ce sera la batteuse, quoi. Mmh. Et ah oui, mais l'impact sur les sols, l'impact sur tout ce qui vit, là, actuellement, ça n'a pas besoin d'être des espèces protégées, des pique-prunes ou autres. Il y a quand même, voilà, il y a des animaux, il y a de la vie qui est là. Pourquoi est-ce que ce serait vraiment ce facteur-là économique qui devrait dominer, quoi?
Car mon amour, simplement, je ne voudrais qu'un baiser sur le front, un olivier nous bercerait calmement. Abrité du vent, j'invente des oliviers, des sonates, des palmeraies. Pour nous abriter du vent, j'invente des oliviers, des sonates, des palmeraies. Des oranges roses dans des oranges roseraies. Car je désavoue vraiment celles et ceux qui ont souffert de quelque amour violent. Ça n'existe pas vraiment. Pour nous abriter du vent, j'invente des oliviers, des sonates, des palmeraies. Des oranges roseraies, des chardons et des roseaux. J'ai compté, j'ai le cœur en mille morceaux. J'organise une battue pour recoller les morceaux, pour me déséparpiller. Sur le front, un olivier nous bercerait calmement. Pour nous abriter du vent, j'invente des oliviers, des sonates, des palmeraies, des oranges roseraies. Et des roseaux. Des sonates d'abricots. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Ce que tu veux.
Moi, je pense que, enfin, voilà, ce que met en place, enfin, le collectif Bois 07, de regrouper propriétaires, enfin, les différents acteurs, aller jusqu'au consommateur, le conscientiser, c'est vraiment là où on arrivera à créer de la cohérence, quoi, que ce soit dans la gestion forestière ou dans l'utilisation du bois.
Et alors, donc, vous, Anne, à Réseau Alternatif Forestière, qu'est-ce que vous proposez, en fait, aux gens?
Alors nous, on est aussi dans de la sensibilisation, information, également sur les enjeux, de l'interpellation. Quand il y a des projets débiles qui se mettent en place, on essaye d'interpeller. On essaie aussi, voilà, de montrer quels sont les impacts des machines lourdes en forêt et dire il y a d'autres solutions, donc du matériel léger, que ce soit des bardages à cheval ou par cam, il y a d'autres systèmes, d'appuyer tous ceux, de faire se rencontrer en fait tous ceux qui ont des initiatives locales qui vont dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que voilà, le collectif Bois 07 fait partie du réseau. Mathias Bonneau, voilà, avec son expérience de bûcheronnage, il nous apporte un éclairage sur ce métier.
Le fameux livre dont je vous parle.
Voilà. Voilà, on essaie de rassembler en fait tous ceux qui ont cette sensibilité à la forêt, que ce soit des amoureux, citoyens, lambda, habitants, proches d'une forêt, promeneurs, autres, mais aussi et de les mélanger en fait avec des professionnels. Donc que ce soit des gestionnaires, des menuisiers ou des bardeurs bûcherons. Et pour essayer de décloisonner ce débat et pas rester juste entre citoyens qui subissons les coupes rases, le fait de pas savoir d'où vient le bois, de se dire ou d'acheter du bois exotique parce qu'on nous a dit que c'était mieux, etc. Donc c'est de décloisonner le débat avec aussi entre professionnels qui eux ont un jargon particulier, se comprennent pas forcément. Donc voilà, faire se rencontrer, donc on organise une ou deux fois par an des rencontres entre citoyens et professionnels. Et puis voilà, on a toute une réflexion aussi sur l'accès aux fonciers forestiers pour qu'il y ait davantage d'activités en forêt, pour que les forêts soient davantage accessibles à ceux qui veulent.
Waouh, ça aussi c'est un gros boulot, hein.
C'est notre projet pour prochain
challenge. Ça c'est un gros boulot, voilà. Parce que c'est vrai que notamment avec les histoires de parcs nationaux, parcs régionaux, etc., où on n'a plus le droit d'aller habiter. Avant, il y avait des maisons dans ces endroits-là. Il y avait qui sont devenues des ruines, du coup. C'est un autre sujet, mais quand même, quand la forêt est habitée, elle est entretenue. Il y a pas mal de ruines dans des zones forestières qui aujourd'hui ne peuvent plus être habitées, ne peuvent plus être construites, ou on peut plus racheter ces ruines ou les retaper, etc. On doit les laisser à l'état de ruines. Ça fait un peu mal au cœur, quoi. On se dit. S'il y avait des gens motivés pour aller s'installer là-bas, retaper ces ruines et entretenir au moins ces petits bouts de forêt, ça pourrait être pas mal.
Voilà. Après, faut arriver à en trouver en tirer un revenu, quoi. C'est des expériences, que chacun connaît, quoi. Des néos qui arrivent, qui s'installent, qui retapent la ruine, et puis bon, au bout de 3-4 ans, ils s'épuisent, et puis l'argent n'est plus là, et ils repartent, quoi. Donc, faut arriver à ce que ces gens qui souhaitent s'installer, sur le plateau de Mille Vaches, voilà, j'en ai entendu parler récemment, un éleveur qui s'installe, qui est en autonomie, il souhaite un accès à la forêt, la commune, est prête à mettre en distraction une partie de la forêt communale, c'est-à-dire à lui laisser, à la reprivatiser, donc il y a des conséquences après, et pour qu'il arrive à l'utiliser, à en faire du bois énergie, à en faire
Et ça fonctionne?
Actuellement, pas très bien, mais le projet était bien parti. Mais il y a toujours des phases comme ça dans un projet où il y a des ralentissements.
Alors justement, abordons ce sujet-là. Laurent Carbonel, vous avez essayé donc de lancer un projet de filière bois dans le nord du Gard, c'est ça?
Oui.
Ouais. Quel problème vous avez rencontré qui a fait que ça a capoté?
Pourquoi il ne s'y passe pas grand-chose? Parce que je pense qu'entre le moment où on avait réfléchi à cette filière et au moment où on l'a créée réellement... le bois énergie c'est industrialisé, c'est-à-dire que nous c'était presque artisanal
ouais.
C'était presque artisanal et qu'après c'est créé ces grosses plateformes bois énergie un peu partout dont sur Alès, qui fait qu'à un moment donné le prix du MAP, parce que mètre cube apparent de plaquettes forestières, donc le bois déchiqueté, sorti d'une petite plateforme en Cévennes, elle est forcément plus chère. C'est un peu ce que disait Juliette tout à l'heure par rapport au bois qu'ils vendent, que la grosse plateforme qui passe des volumes très importants. Enfin, c'est reproductible sur on parlait de la nourriture tout à l'heure. Donc, je pense que très rapidement, avant que la filière existe, disons, elle était déjà plus au niveau de la concurrence, elle était déjà dépassée. Et parallèlement à ça, je suis pas sûr que les communes aient joué le jeu de s'équiper autant que ceux qu'elles avaient prévu en chaufferie bois. À côté de ça, on a des exemples, pour ne citer qu'un. Un des exemples les plus anciens, à côté de chez nous, à Bannes, où il y a une collectivité. Donc l'Amérique avait joué le jeu il y a une vingtaine d'années avec un particulier qui avait monté une plateforme de déchiquetage qui entretenait les bois communaux et ses bois privés et qui approvisionnait en bois déchiqueté la chaufferie de la commune et même des particuliers s'y étaient mis. Donc là, on était dans du très local, ça dépassait même pas la commune. Par ailleurs, il livrait d'autres clients à côté. Voilà, on était dans un modèle qui était complètement cohérent. Ça continue à fonctionner très difficilement. parce que ça tenait aussi parce qu'il y avait ses autres clients à côté qui avaient des demandes en volume important qui sont aujourd'hui en train de se tourner vers les gros industriels de la plaquette forestière, donc
qui coûte moins cher.
Voilà, donc ça c'est un petit peu un modèle qui a vécu mais qui a prouvé que c'était possible. Après, c'est voilà, ce n'est qu'un engagement, comme le disait notamment Juliette, c'est un engagement de chacun des consommateurs.
Ça devient éthique, ça devient un choix éthique à ce niveau-là.
Et du coup, nous, on, au niveau du collectif, on a créé l'an dernier une marque, la marque Bois 07. Pour l'instant, qui vit pas beaucoup. Enfin, cette marque, elle nous sert juste à vendre nos produits, mais on a été sollicité en fait par des agriculteurs, par exemple, qui sont amenés à broyer un peu de bois ou des choses comme ça, pour éventuellement pouvoir bénéficier de cette marque-là, pour pouvoir valoriser leurs produits et dire ok, certes notre produit il est plus cher, mais du coup la marque ça amène un outil commercial en fait pour pouvoir vraiment justifier pourquoi il est plus cher.
Je comprends.
Et voilà, donc c'est aujourd'hui un petit peu en questionnement au niveau du collectif, où on aimerait pouvoir déposer cette marque pour pouvoir la faire vivre, rédiger vraiment une charte. L'idée, ça serait de pouvoir avancer un petit peu là-dessus et proposer un outil justement à tous ceux qui sont porteurs d'initiatives de ce type-là. Et voilà.
Alors, notre émission touche à sa fin. J'aimerais qu'on termine justement avec ce point économique qui est quand même au cœur du débat, parce que sans revenus économiques, on n'arrive à rien, hein, la preuve. Ni on peut acheter du bois équitable, ni on peut travailler en sylviculture douce. Est-ce que vous avez des informations pour un propriétaire forestier? Est-ce que c'est plus rentable pour lui de passer par de la coupe rase, où là, il reçoit vite plein d'argent, mais du coup, après, il n'a plus rien, et il va falloir attendre, 50 ans ou 60 ans, et encore, comme on l'a vu, ça sera beaucoup de petits rejets, donc ça ne sera pas forcément très intéressant à la revente, dans un deuxième temps. Ou alors, d'avoir des revenus peut-être moins élevés tout de suite, mais au moins d'avoir une rentrée d'argent régulière tous les ans, prélevée un petit peu dans une optique de sylviculture douce et d'entretien raisonné de la forêt. Est-ce qu'il y a des études économiques qui sont faites sur ce point ?
Oui, voilà, c'est l'association donc ProSylva dont je vous parlais tout à l'heure. Effectivement, si vous faites une coupe d'amélioration, vous pouvez avoir, ça dépend, là, tout à l'heure on était sur une parcelle, ça faisait 700 euros à l'hectare. Si vous faisiez une coupe rase, vous pouviez avoir 2000 euros à l'hectare, mais après vous touchez plus rien pendant 10 ans.
C'est très intéressant, donc voilà, on a les chiffres. Donc sur une parcelle, soit on a 2000 euros de suite et après on n'a plus rien, soit on a 700 euros par an.
Pas par an, pour quand vous faites la coupe d'amélioration. Donc ça, c'est juste deux scénarios. Il y en a un troisième, qui est justement une coupe donc de sélection, donc c'est aussi de l'amélioration, mais sur laquelle vous allez effectivement essayer de travailler pour avoir de l'irrégulier. Donc vous allez peut-être avoir certainement moins que 700 euros, on va dire 300 peut-être, mais par contre, vous allez commencer à irrégulariser votre peuplement, c'est-à-dire peut-être prendre un peu des gros bois et un peu des petits bois. Donc après, par contre, il faudra trouver les débouchés. Donc c'est ce qui est un peu compliqué parce que vous aurez ce qu'on appelle des lots qui seront pas homogènes. Donc essayez d'en fournir certains à la scierie, d'autres pour du bois énergie, quoi. Ceux qui sont tordus, en gros, hein, c'est ça. Et puis, par contre, vous pourrez intervenir plus régulièrement. C'est-à-dire que c'est 200, 300 euros que vous aurez au début. 7 ans, 8 ans plus tard, enfin, ou même 5 ans plus tard, vous pourrez revenir sur votre parcelle et refaire à nouveau un prélèvement. Voilà. Sachant qu'il y a quand même des opérations suivant l'état de votre peuplement, c'est-à-dire que si ça a été abandonné pendant 30-40 ans, c'est comme la ruine, hein. Au début, ça va vous coûter de l'argent, ou vous allez faire des opérations blanches, c'est-à-dire qu'ils vont s'équilibrer, et puis au bout de 20 ans peut-être, ou
ça
moins,
sera rentable.
Vous allez commencer à avoir de l'argent, quoi.
D'accord. Voilà. Bon, mais on a fait le point sur toutes ces questions. Donc, on rappelle, peut-être donner les contacts à Anne Berthet du RAF, Réseau Alternatif Forestière, si les gens veulent vous contacter, email.
Oui, un email, oui. Donc, c'est anne@alternativeforestiere, avec un S à chaque fois et sans point, .org.
Merci. Juliette Vidard pour le collectif Bois 07 qui est basé au Vence.
Voilà, donc l'adresse mail c'est collectifbois07, tout attaché, @gmail.com. Et on a un site internet aussi, il suffit juste dans le moteur de recherche de taper collectifbois07 et ça mène dessus.
Laurent Carbonel pour SOS Forêt Cévennes. Vous recherchez toujours du monde, hein, pour mobiliser sur cette cause, j'imagine.
Tout à fait. Et donc, du coup, nous aussi, nous avons une adresse mail, c'est contact@sosforetcevennes.org, ainsi qu'un site internet. Il suffit de taper SOS Forêt Cévennes sur le moteur de recherche, vous l'aurez. Et voilà.
Avant de nous quitter, j'aimerais parler de la journée de soutien donc au collectif SOS Forêt Cévennes qui aura lieu ici à Bessèges le samedi 25 avril. Notez bien cette date, le samedi 25 avril, toute la journée, il y aura plein d'activités au CCC. C'est le collectif créatif du Castellas qui se trouve sur les hauteurs de Bessèges, du côté de la ville, à côté du collège. Donc le collectif créatif du Castellas vous accueille à partir de 14h pour des sessions d'information, d'échanges et autour donc de la thématique des forêts cévenoles. Il y aura des activités très sympas pour les enfants, organisées par Martina. Je vous recommande d'y aller avec vos enfants. C'est un lieu très agréable avec des espaces extérieurs où les enfants pourront s'amuser. À 16h30, une vente aux enchères des films et également la Batucada de Bessèges viendra égayer l'ambiance. De 16h à 20h, une exposition d'art et d'artisanat hommage à la nature, une très très belle l'exposition aussi que je vous recommande. À 17h, il y aura des ateliers d'écriture. À 19h30, il y aura des contes pour tous avec la présence de Catherine Caillot. Poésie et musique avec Daniel Nicolas. Et tout ça se terminera en musique à 20h30 avec un concert. Il y aura aussi buffet et buvette à prix libre. L'entrée est gratuite et ça fonctionnera donc au chapeau. Il y a un parking devant la poste pour vous garer devant la poste de Bessèges. C'est le samedi 25 avril au collectif créatif du Castellas, au 3 impasse du Castellas à Bessèges. On se quitte donc avec un extrait du livre de Mathias Bonneau, Carnet d'un bûcheron, que vous pouvez vous procurer aux éditions 13 avril, ou juste envoyer un email à ou aller sur le site plutôt de Mathias, Mathias Bonneau avec deux N, jimdo.com. Allez, c'est parti, un extrait, ça va nous donner une idée. Ah, qu'il est bouleversant, ce moment où tu sens que l'arbre bascule. Tu le vois, mais c'est bien plus qu'une information visuelle, tu le sais. L'équilibre est brisé. Il a quitté sa position de gravité. Il est mort. C'est fini. Il s'écroule. On a abattu des Douglas aujourd'hui. J'en avais déjà coupé des arbres plus gros en diamètre. Mais quelle majesté. Quelle hauteur. Ils approchaient les 35 mètres. De grands moments, ça aussi. Plusieurs tonnes végétales de vacarme et de chute libre. Des branches sont cassées et volent autour du tronc qui s'écrase dans la mousse avec un bruit sourd. C'est un tel souffle. Cet écroulement me déséquilibre presque, une sensation qui serre le ventre et qui me donne à chaque fois l'impression de basculer avec l'arbre que je tue. Voilà, du bûcheronnage en finesse. Merci à tous d'avoir été là et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
À bientôt. Merci.
My gang will get you.
Retrouvez toutes les émissions des Enfants du Nouveau Monde une semaine sur deux, le dimanche à 19h et le samedi à 13h, et puis quand vous voulez sur le www.radio16.net. See the brave.